Thibaut de Rouvray, bonjour.
Bonjour Mathias Terrier.
C'est toujours une joie de vous écouter, vous qui êtes historien, qui nous plongez dans l'histoire de notre région à travers notre patrimoine. Vous êtes, je le signale par ailleurs, président de la Société académique des Hautes-Pyrénées. Cette fois-ci, nous allons nous promener dans nos cimetières. Alors on va me dire, oui, c'est un peu morbide, sauf que on est tous très attachés à nos morts, et c'est normal, et à nos cimetières. On se rend compte dans les villes et villages combien les cimetières sont importants, même si nous allons le voir avec vous, il y a eu de grandes évolutions s'agissant des inhumations et des sépultures au cours des siècles. Alors, Thibaut de Rouvray, si on devait d'abord parler des inhumations, c'est-à-dire l'acte qui consiste à enterrer nos morts, quelles sont les grandes évolutions? Si on part du haut Moyen Âge, comment inhumait-on à cette époque-là?
Alors c'est vrai que durant l'Antiquité, les morts sont un peu, on les craint un peu, donc on les enterre en dehors des villes, le long des voies. Et souvent au Moyen Âge, cette crainte un peu perdure. On a des cimetières qui sont un peu isolés de toute habitation, de tout contexte habité. Et il faut attendre vraiment, je dirais, entre le 9e et 11e siècle, où là on constate qu'il y a un rapprochement systématique qui se fait entre l'église, le centre de la communauté paroissiale, et le cimetière qui se développe autour.
Donc c'est à cette époque-là que devient essentiel d'être enterré près de l'église.
Tout à fait. Parce que l'église, voilà, abrite le culte, elle abrite en général des reliques des saints. Donc c'est une façon aussi pour les croyants d'accéder en fait au paradis. Et puis c'est pour la mentalité médiévale, le fait d'être enterré autour de l'église, on forme un tout. Les vivants qui viennent assister à l'office toutes les semaines font partie du même ensemble, de la même communauté que les défunts qui sont autour.
C'est la communauté des vivants et des morts.
Tout à
On
fait.
le dit d'ailleurs dans la liturgie. Et à partir de cette époque, on prend aussi, d'après ce que vous m'avez dit, l'habitude d'enterrer aussi dans les églises, ce qui peut nous surprendre.
Oui, alors c'est vrai que dans une recherche de toujours plus de proximité des autels, des reliques, du lieu le plus sacré, certaines familles notables en particulier vont obtenir le droit d'être inhumées. Alors symboliquement pour les prêtres, c'est normal d'être enterré près des autels, mais aussi voilà, des bourgeois, des nobles, et même parfois dans les Pyrénées, on le constate, des personnes relativement modestes peuvent accéder à cette inhumation à l'intérieur de l'église sous le pavé.
Sous le pavé, alors expliquez-nous, est-ce qu'il y avait des règles s'agissant des inhumations dans les églises? On a compris que dans nos Pyrénées, même les gens modestes pouvaient y accéder. Mais après, dans l'église, on va dire que la place est quand même restreinte.
Oui, alors c'est vrai que souvent ça a donné lieu à des débats, et on passait même souvent un acte devant notaire pour régulariser, savoir à quel endroit on voulait être inhumé. Et puis il y avait des lieux qui étaient réservés un petit peu, le chœur était pour les prêtres, la proximité du chœur et de la barrière de communion pour les notables. Donc après, chacun se répartissait un petit peu selon son rang dans des fosses. Et au-dessus de ces fosses trouvait place en général la famille, hein, du défunt. Donc il y avait un lien qui était maintenu.
Et vous m'avez indiqué juste avant le début de cette émission que on pouvait faire un lien entre la place que tiennent les hommes, un peu traditionnellement dans l'église, là on parle des vivants, hein, qui sont plutôt en hauteur dans les balcons ou dans les zones hautes de l'église, et puis les femmes qui sont plutôt dans la nef en bas. Et quel est le lien avec justement les inhumations des morts?
Oui, alors ça c'est encore très présent dans les Pyrénées, même notamment encore au Pays Basque, où on a beaucoup de galeries de tribunes hautes. Et c'est vrai que traditionnellement, les hommes prennent place dans ces tribunes, et les femmes, elles, qui s'occupent du défunt dès l'agonie, et qui ensuite vont faire toutes les préparations mortuaires et les prières des morts, les femmes sont voilà, au contact direct du pavé, au contact des défunts et des ancêtres.
Parce que c'est sous ces pavés qu'étaient enterrés les morts.
Tout à fait.
Voilà. Alors, quelles sont ensuite les évolutions qu'on peut noter concernant les inhumations?
Alors c'est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières et des encyclopédistes, on se méfie un petit peu pour des raisons d'hygiène. On décrit des scènes assez apocalyptiques, d'exhalaisons putrides qui se diffusent dans les églises ou dans les cimetières. Donc voilà, on a le souhait à nouveau d'éloigner ces inhumations et de créer des cimetières en dehors des murs. C'est aussi l'époque à Paris où on va détruire des cimetières et entasser les ossements, dans ce qui va donner les catacombes de nos jours.
Et à partir de quel moment on parle de concession? Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des familles, hein, sont, pour une partie, en tout cas, préoccupées par ces questions. À partir de quel moment on entre dans cette phase un peu juridique?
Alors c'est comme dans beaucoup d'autres aspects de la société qui perdurent de nos jours, c'est à l'époque de Napoléon Ier hein, qu'il y a des textes qui réglementent, qui légifèrent sur l'installation des cimetières et puis l'attribution à chaque famille de concessions pour une durée plus ou moins longue et qui va définir en fait la géographie que l'on connaît encore des lieux d'inhumation.
Est-ce que vous mettez au rang des évolutions actuelles les questions de crémation dans les inhumations? C'est une des évolutions, en tout cas à vue humaine, là qu'on constate.
Oui, tout à fait. Voilà, dans ces nouvelles pratiques, dans la diversité des cultes ou même l'absence de culte parfois des personnes qui sont inhumées, voilà, ça pose aussi des nouvelles interrogations et des réflexions pour l'aménagement des cimetières.
Oui. Quel type d'interrogation?
Alors c'est vrai que souvent, maintenant les familles sont éloignées, les tombeaux ne sont pas toujours entretenus et à la fois il y a un souhait de la part des personnes qui recherchent leurs origines de retrouver parfois une tombe et puis un problème souvent de gestion pour les municipalités qui se retrouvent devant des concessions qui ne sont plus entretenues.
Si on voulait maintenant parler plus des sépultures, alors on a parlé d'inhumation, c'est-à-dire, nous l'avons plusieurs fois répété, la façon d'enterrer nos morts. Les sépultures, ben c'est ce qui est visible. Y a-t-il une évolution historique notable, intéressante, que vous pourriez nous brosser?
Alors c'est vrai que pour le Haut Moyen-Âge, et surtout dans la région du sud-ouest, on a tout un ensemble de sarcophages alors qui font le lien entre l'époque antique et puis le début du Moyen-Âge, avec une particularité aussi dans la région de Lourdes, dans les Pyrénées centrales, c'est d'avoir eu encore visible de nombreuses carrières d'extraction de sarcophages.
Un sarcophage, c'est un gros bloc de pierre qu'on a creusé
Tout à fait.
pour en faire un tombeau.
Voilà, une sorte de doge voilà, dans laquelle on met le corps. Hein. C'est l'étymologie, hein, sarcos, phagein, donc quelque chose qui va manger un petit peu les chairs. Hein. On dit que ça accélère la putréfaction. Et à l'époque antique et au début du Moyen-Âge, c'est encore très prisé. Et beaucoup des plus vieux cimetières que l'on peut retrouver à Toulouse, autour de Saint-Sernin ou autour de Saint-Amand à Rodez, contiennent de ces sarcophages.
Vous nous l'avez dit, au Moyen-Âge, les cimetières se retrouvent autour des églises. Et là aussi, sans doute qu'il y a une évolution des sépultures avec ce rapprochement des cimetières des églises.
Oui, alors on abandonne peu à peu les sarcophages, donc on va plutôt creuser des sortes de fosses, de caveaux ou des enterrements en pleine terre, avec une forme des cimetières qui est assez caractéristique au moment de la mise en place de la féodalité entre le XIe et le XIIe siècle, c'est-à-dire que le cimetière est un lieu sacré dans lequel la population peut trouver refuge et on va un peu parfois fortifier ces cimetières. Et quand on regarde encore un peu dans les cadastres actuels ou les vues aériennes, quand on voit dans les campagnes des cimetières arrondis autour des églises, ça renvoie à ces enclos fortifiés où trouvaient place les vivants et les morts.
Les tombes les plus simples, généralement, sont à l'extérieur et c'est à l'intérieur qu'on trouve des caveaux, non?
Oui, voilà, en général, les caveaux extérieurs, c'est vraiment récent. Pour en trouver avant la Révolution, c'est à l'intérieur des églises, avec parfois des monuments très imposants ou ce qu'on peut appeler des ampheux.
Ah, de quoi s'agit-il? Des enfeux?
Alors des ampheux, on en voit parfois, par exemple, autour de l'abbaye de Sainte-Foy de Conques ou dans le cloître de Saint-Bertrand de Comminges. Ce sont des niches qui sont creusées dans l'épaisseur du mur. Hein. C'est des tombes assez privilégiées. Et à la base de la niche, il y a le caveau proprement dit, parfois avec un gisant, une effigie du défunt qui est représentée.
Enfeu, ça s'écrit Enfeus.
Voilà.
Bon, y a-t-il d'autres types de monuments qui peuvent donc accueillir des sépultures?
Oui, après on peut avoir, comme à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, les chanoines étaient souvent enterrés dans le cloître ou dans l'église elle-même, alors pas directement au-dessus de leur tombe, mais sur le mur, à proximité, on peut avoir une inscription, un monument assez orné qui fait mémoire de leur inhumation.
On parle parfois aussi de mausolées, de caveaux. Vous pourriez nous expliquer un petit peu là, la différence peut-être avec les autres types de sépultures?
Oui, alors là, c'est plutôt quelque chose qu'on va découvrir à partir du 19e siècle, notamment dans les grands cimetières urbains, mais parfois aussi dans les villages où il y a une sorte de mode hein, de faire toujours des monuments plus visibles, plus imposants, parfois qui ressemblent à des petites chapelles, donc souvent dans le style néo-gothique, enfin des choses parfois assez élégantes avec des matériaux soignés.
Et justement, parlons matériaux. La plupart du temps, ce sont des matériaux durs, c'est-à-dire des marbres, de la pierre, des schistes, que sais-je. Là-dessus, il y a aussi des habitudes ou bien des tendances.
Oui, c'est alors finalement le marbre, les pierres dures, froides, qui ont une analogie un peu avec la mort, sont assez recherchées. Il y a aussi en fonction des ressources locales. C'est vrai que les carrières de marbre blanc de Saint-Béat ont beaucoup fourni de mobilier funéraire au XIXe siècle. Et puis il y a une évolution aussi finalement dans la symbolique, dans ce qui est représenté. Parfois, la symbolique religieuse va s'effacer un peu au profit d'objets ou de représentations un peu moins religieuses.
Oui, et ça, c'est à partir du 19e siècle?
Oui, c'est à partir vraiment du 19e siècle, même plutôt de la deuxième moitié du siècle, où on va retrouver des évocations du sommeil éternel avec des pavots, des fleurs de pavot, du guillère, le sablier avec les aigles aussi pour évoquer le temps qui s'envole.
Toujours concernant les matériaux, bon, on sait très bien que les échanges se multiplient au cours du XXe siècle. Est-ce que là aussi, les matériaux utilisés pour les sépultures évoluent au gré de justement de ces échanges?
Et oui, c'est vrai que depuis plusieurs décennies, c'est un petit peu le granit qui est en majorité représenté dans le funéraire. Alors parfois, c'est vrai qu'il y a
Du
quelques
granit
carrières.
qui vient de très loin.
Il peut parfois venir, effectivement, on a des carrières dans la région, dans le Tarn, mais parfois ce granit qu'on retrouve dans les cimetières, il vient d'outre-Atlantique, notamment voilà, du Brésil ou d'Amérique du Sud, ce qui parfois voilà, peut poser des vraies réflexions aussi en termes d'écologie et de déplacement et de coûts.
Dans les cimetières aussi, on voit dorénavant se multiplier l'érection de colombariums.
Oui. Et oui, qui est lié en fait à la pratique de la crémation, qui est assez développée, et avec là aussi peut-être des réflexions à mener à la fois pour les aménageurs, pour les municipalités, et puis aussi une réflexion, voilà, comment est-ce qu'on veut présenter ces nouveaux lieux d'inhumation? Est-ce que parfois on n'a pas intérêt aussi à introduire un peu plus de verdure, de végétation? Est-ce que, comme on a pour les cimetières anglo-saxons, ou un autre exemple, je crois, qui est à Nantes, de cimetière-jardin, est-ce que voilà, ce n'est pas aussi propice au recueillement, voilà. Donc il y a des adaptations, pas mal de pistes de réflexion sur ce sujet.
Merci beaucoup hein, pour ces échanges, Thibaud de Rouvray, qui disent quelque chose de notre rapport à la mort, de ra notre rapport à nos morts et de notre culture à travers ces cimetières, la façon d'inhumer et puis nos sépultures. Merci et à très bientôt sur cette antenne. Au
Merci,
revoir.
à bientôt.